France Inter.
Je peux goûter comme ça?
Oui, 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 bien sûr.
C'est bon.
Marie, dites-nous tout sur la polenta.
Eh bien, c'est de la semoule de maïs.
Traditionnellement, en Italie, c'est à l'eau. Par contre, vous pouvez utiliser n'importe quel type de liquide. Un bouillon de légumes, un bouillon de viande, du lait.
Et après, on brasse avec un bâton en bois.
Polenta.
Polenta.
Et donc ça, c'est la fameuse farine de châtaigne.
Voilà. Ça avait un double jeu, la polenta, c'est que ça remplaçait le pain, vous comprenez?
C'est pas de la cuisine, c'est du sport.
Et on en trouve même maintenant une pré-cuite, ça cuit en 5 minutes. Ce qui est bon, c'est de l'étaler pour la mettre sur 1,5 cm d'épaisseur à peu près, d'y couper des petits cubes et puis de les passer au beurre à la poêle pour les faire dorer.
Ah.
Alors là, c'est vraiment très bon.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau dont on va déguster. Aujourd'hui, on vous raconte le destin d'un plat qui pourrait être l'un des plus vieux au monde, rien de moins. Une bouillie de céréales qu'on entend souvent aujourd'hui au sens de bouillie de maïs, j'ai nommé la polenta. On vous raconte et on cuisine cette polenta de toutes les manières avec notre italienne dans la bande dont on va déguster, Alessandra Piarini. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
La polenta, 10 façons de la préparer, c'est le livre que vous avez publié aux éditions de L'Épure dans cette belle collection qu'on connaît bien de petits fascicules fabriqués en France, cousus main, que l'on ouvre à l'aide d'un coupe-papier, c'est très agréable. La polenta est le premier titre, en fait, Alessandra, que vous aviez signé en 2014 dans cette collection, parce que vous en avez fait un paquet.
Oui, 14, ça fera la fin de l'année avec les deux petits derniers qui vont sortir.
14 thèmes, les petits derniers, on veut savoir.
Alors là, c'est la semaine prochaine, ça sera les pâtes.
Oui.
Et puis, en automne, la châtaigne.
La châtaigne. Et là, la polenta, c'est donc une version enrichie du premier titre que vous aviez publié en 2014.
Tout à fait, oui. Là, il est ressorti en 2022. J'avais envie d'écrire un peu plus et de donner des nouvelles recettes que j'adore.
Une polenta à l'italienne, bien sûr, elle est dans la cocotte, toute chaude. On va la déguster dans un instant. Et des choses beaucoup plus originales, on va le voir avec de la polenta. La polenta n'est pas qu'une affaire italienne. Je reçois également le chef le plus maïsophile de France, Julien Duboué, bonjour.
Bien le bonjour.
Originaire des...
Landes.
Et oui, où le maïs est une...
religion.
Vous êtes à la tête de Boulhomme, une boulangerie-restaurant à volonté, 181 rue Ordener, Paris 18e, qui connaît un immense succès. On peut parler carrément d'un phénomène. Vous refusez des centaines de personnes par week-end, que se passe-t-il ?
Peut-être grâce à vous, très cher, qui êtes venu au tout début.
C'est vrai, mais alors oui, en effet, mais enfin, c'est votre talent surtout. Et le principe quand même d'un buffet à volonté.
Oui, c'est un buffet à volonté. Enfin, on cuisine dans les fours à pain, dans lesquels on a cuit du pain. D'ailleurs, j'en ai amené à base de polenta ou de diverses farines. Et après, on cuit des grands plats qui sont posés tout simplement au milieu du restaurant et les gens se servent. Voilà, c'est devenu un restaurant de buffet à volonté, qui n'était pas le cas au début, on va dire. Ça se passe plutôt bien.
Ça se passe même carrément bien. Ben, c'est idéal même pour se retrouver en famille ou entre amis. Vous l'avez expérimenté
c'est
plus d'une fois.
Plusieurs fois. Oui, j'adore.
Boulhomme, un sacré phénomène quand vous cherchez une belle adresse parisienne. Le seul truc, c'est qu'il faut être un peu prévoyant et réserver un peu à l'avance. Et vous avez d'ailleurs, Julien, signé en 2017 une déclaration d'amour à votre céréale préférée, 100% maïs aux éditions Alain Ducasse, avec 30 recettes à base de maïs sans grain, en semoule, en farine. On va voir tout ce que vous pouvez faire, l'étendue de votre talent avec de la semoule de maïs ou de la farine. Vous allez voir, c'est assez impressionnant, chers auditeurs et auditrices. Avec nous également, jusqu'à midi, notre prof de cuisine, Jean Matacristol, notre chroniqueur vent, Antoine Gerbel. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Jean.
Moi, je vais vous fortuitement vous parler de l'usage de la farine de maïs en passant par Ornan, une charmante petite commune du Doubs.
Ah, petite énigme, vous allez voir, très intéressant. Antoine.
Et moi, on va parler accompagnement, bien évidemment, avec cette polenta et deux petits bijoux du nord de l'Italie seront dans nos verres.
Ah d'accord, donc la balance penche du côté de l'Italie.
Il y a
un match de la polenta entre France et l'Italie. On va voir comment ils s'en sortent, nos amis. On attend vos réactions et vos questions en direct sur notre mail. On va déguster à radiofrance.com ou bien sur le bouton réagir depuis l'appli mobile de France Inter. Et pour retrouver tous les contenus, les podcasts, les recettes, les infos pratiques de notre émission, et notamment les recettes d'Alessandra et Julien, franceinter.fr, à la page, on va déguster.
France Inter.
On va déguster avec François-Régis Gaudry.
Avant de parler polenta, chers amis, je vous propose de commencer cette émission en douceur avec une petite surprise gourmande que j'aimerais vous faire goûter à l'aveugle. Vous avez chacun sous vos micros une confiserie avec un parfum différent. Déjà, est-ce que vous pourriez identifier cette confiserie ? Allez, Julien Dubouet.
Bon, je dirais que c'est une pâte de fruits.
Bien joué.
Très élégante, très décorée, ce qui va peut-être nous aider pour la dégustation d'ailleurs.
Ah, il y a un petit indice en effet.
Et je l'ai dans la bouche, je trouve ça très élégant, très fin, très bien fait. Pas trop sucré, on sent peut-être un peu plus même d'ailleurs la fleur que le sucre, ce qui est plutôt très agréable.
Et vous avez prononcé le mot de fleur. On pourrait presque parler de pâte de fleur, même si vous avez raison, c'est le principe de pâte de fruits, évidemment. Mais avec une charge florale assez, à la fois je dis, assez puissante et en même temps délicate, les deux à la fois. Mais c'est en effet des pâtes de fruits aux fleurs. Jean ?
Oui, alors moi j'en ai une qui est très jolie. Moi j'ai un gros indice dessus, parce que je pense que ce sont des petites fleurs de rose. C'est très très bon, et je trouve qu'effectivement c'est pas très sucré. Et je pense pas que ce soit fait avec tant de sucre que ça. Je verrais bien.
Non, en effet...
Je pense que c'est collé à autre chose.
Des doses très très raisonnables de sucre. Il y a déjà le sucre naturel du jus de pomme, en fait, qui est la base de cette pâte de fleurs.
Avec la pectine.
C'est collé à la pectine.
Avec la pectine. Un petit peu de sucre, mais pas trop. Et de longues infusions naturelles à base de fleurs. J'ai entendu rose à ma gauche. Il a trouvé son parfum. Bravo Jean, c'est effectivement une pâte de rose, tout à fait, avec un parfum très délicat. Ce sont des roses de Damas qui viennent de Grasse. Allez Sandra.
Moi, je crois d'ailleurs reconnaître pâte de fleurs.
Je vous fais un clin d'œil.
Franchement, je les ai déjà dégustées, en fait, l'année dernière. Pendant, d'ailleurs, celle, je pense, avoir de la fleur d'oranger.
Bravo!
Ah, parce que
fleur d'oranger!
Et pour une fois, et donc j'ai eu exactement la même sensation. Je mange une pâte de fruits d'ailleurs, pas très sucrée, très jolie, et où le goût est plus fort que le parfum. Donc j'étais déjà scotchée la dernière fois, je l'ai dégustée. Donc au salon du monde de l'épicerie fine, qui est organisé par Marie-Edith et Bruno Lecoq, et c'était pour attribuer des épicures, les prix épicures, dont cette confiserie a eu l'épicure d'or catégorie.
On ne peut pas la piéger, Alessandra Pierini, c'est incroyable. Ça s'est passé en juin 2023 au pavillon Gabriel à Paris. Et en effet, vous faites partie, vous êtes un peu une dégustatrice permanente de ce concours.
Oui, je fais partie du jury chaque année depuis 11 ans maintenant.
Et vous avez eu cet énorme coup de cœur pour effectivement pâtes de fleurs qui ont gagné un épicure d'or. Et fleur d'oranger, en plus, elle a trouvé le parfum. Antoine Gerbel.
Ben, j'étais un peu comme mon camarade d'enfant, j'étais sur la rose, moi. J'avais Alors, c'est sûr qu'on est... C'est un pétale de couleur, c'est un pétale un peu plus violette, peut-être.
Bravo.
Ah, voilà.
La violette, on l'a donnée à notre chroniqueur, parce que la violette, on la retrouve dans la Syrah, de temps en temps, dans certains tanins rouges.
Oui, bravo. Vous avez raison, c'est hyper subtil. C'est peut-être plus proche presque de la gelée, dans les très belles gelées, où on a l'infusion et les grandes gelées de fleurs de rose, par exemple.
Et Julien Dubouet ne s'est pas du tout avancé sur
moi, je sens le piège venir. Je pense qu'il y a eu beaucoup de favoritisme avec des pétales de rose posées.
Vous avez plus compliqué. Allez, une fleur champêtre de printemps.
Non, moi, je dirais, ça me fait penser au sureau.
Et ben bravo.
Je faisais pas le malin. Hein.
Alors, le sureau. Et en plus, notre ami Elwood Bouaza, parce que c'est l'artisan confiseur qui fait ces très belles pâtes de fleurs, va cueillir en famille le sureau en Alsace, dans les forêts juste à côté. Parce qu'alors, il est installé à Mulhouse, dans son atelier. Il n'a pas encore pignon sur rue, il n'a pas encore de boutique, mais il distribue ses créations dans un réseau d'excellentes épiceries fines dans toute la France. Il les vend par ailleurs dans sa boutique en ligne. Que du naturel, on l'a dit. Aucun colorant, parce que, on l'a pas dit, mais ses pâtes de fruits sont teintées dans la masse par les fleurs. Donc c'est vraiment des infusions longues qui permettent ça, avec une puissance et en même temps une délicatesse aromatique absolument incroyable. Voilà, on a tout dit sur ces pâtes de fleurs. Alors, la marque, très précisément, c'est...
Fleurs de chocolat.
Voilà, merci.
Fleurs de chocolat, parce qu'il y a aussi des chocolats aux fleurs exceptionnelles.
Absolument. Et donc, il utilise des fleurs ou des essences de fleurs, parce qu'il y a certaines fleurs qui sont muettes. On dit ça de la violette et de la fleur de cerisier. C'est-à-dire qu'elles sentent très très bon, mais une fois que vous les cuisinez ou vous les laissez infuser, il ne se passe plus rien. Donc là, on est obligé d'utiliser en effet des essences de fleurs. Tout est biologique, majoritairement français, parfois sauvage et champêtre. C'est le cas du sureau que vous avez dégusté, cher Julien. Et les deux seules fleurs qui ne viennent pas de France, c'est la fleur d'oranger, mais également l'hibiscus, qui vient plutôt d'Égypte, et le géranium rosa, qui ne vient pas également de France. Voilà, en tout, il y a 14 parfums. Et toutes les infos sont à retrouver sur la page internet de l'émission Derrière la console pour réaliser cette émission en direct. Laurent Thomas et Guillaume Roux, Fabrice Rivaud pour la préparation et la programmation plein feu sur la polenta, juste après. Tiens, tiens, Alessandra, un titre de Serge Reggiani. On se souvient évidemment de son célèbre titre, l'italien. Voici la version italienne et ça donne en toute logique Il Francese, un titre de 1972. Buon appetito sur France Inter.
Sono io, sono il francese, vorrei sapere se abita qui qualcuno. Da fuori sento il cane, tu allora non sei morta, si aprirà quella porta. Torno in ritardo ma vent'anni in più che fa. Se ora torno coi cerini e col sorriso dei bambini, il viaggio è lungo e ormai si sa che fa fatica l'età. Se ci sei, apri quella porta, io non ne posso proprio più. Se ci sei, aprimi la porta, non sai com'è stato laggiù. Quel che ho fatto non sai, non l'avrei detto mai, ladro ed equilibrista, marescial de logis, attore bracconier, operaio e pianista. Ho avuto donne poi, ho sofferto di denti, sai, l'oro non l'ho trovato mai. Il mondo è grigio e piangerei, anche se adesso capirei, il tempo l'ho perduto ormai. Se ci sei, apri quella porta, io non ne posso proprio più. Se ci sei, aprimi la porta, dirò com'è stato laggiù.
On va déguster.
Quando si pianta la bella polenta si pianta così, si pianta così.
On remplira une belle casserole d'eau et on la placera sur le feu. Quand l'eau commencera à murmurer, je prendrai cette poudre belle comme de l'or, nommée farine jaune, et, peu à peu, la laisserai fondre dans la casserole dans laquelle toi, Arlequin, à l'aide d'une verge savante, tu dessineras des cercles et des lignes. Quand la matière sera condensée, nous la retirerons du feu et tous les deux de concert, lents, aidés d'une grosse cuillère, nous la ferons couler sur un plat. On répandra dessus, à petits coups de main, un abondant morceau de beurre frais, jaune et délicat, puis autant de fromage jaune bien gratté, et puis Arlequin et Rosaura, l'un d'un côté et l'autre de l'autre, armés chacun d'une fourchette, nous prendrons deux ou trois bouchées à la fois de cette polenta si bien préparée et nous en ferons un repas d'empereur.
Merci pour votre lecture, Alessandra Pierini. Vous nous avez mis sur la voie de ce texte que je ne connaissais pas, de la littérature italienne, et qui dégage quand même une certaine charge érotique,
oui,
on va dire.
Bah oui, selon comment on l'interprète,
oui, c'est ça, ouais.
N'est-ce pas?
Vous pouvez nous le resituer, ce texte?
Bien sûr, c'est un morceau d'une comédie, La Donna di Garbo en italien, qui donne en français La Brave Femme, écrite en 1743 par Carlo Goldoni,
oui,
qui est le dramaturge vénitien, donc qui met en scène donc cette recette de la polenta avec Arlequin et Rosaura qui sont les deux serveurs d'un riche médecin bolognais. Et donc, bien sûr, comme il est vénitien, la polenta à Venise fait vraiment partie traditionnelle des mets consommés, surtout à l'époque.
On la sert souvent comme ça, en bloc un peu carré, et de couleur blanche, striée par les marques, les hachures de la cuisson.
Absolument, oui, c'est surtout le maïs blanc qu'on utilise dans cette région. Et donc, on donne ici la recette, mais Goldo, on y oublie un petit peu, hein, parce qu'il s'adresse bien sûr à un public qui connaît très bien la recette de la polenta, oublie de dire qu'il faut quand même, pour la faire comme il faut, beaucoup de sel dans l'eau. Et aussi, il faut la remuer avec ce gros bâton, hein, cette verge savante, le bâton que nous avons sous les yeux sur le plateau d'ailleurs.
Et oui, vous nous avez préparé une polenta qu'on va bientôt déguster, on va même opérer un match France-Italie. Et ce texte est une preuve de plus que la polenta en Italie, c'est quasiment un plat national.
Tout à fait, c'est vraiment, et surtout, ça... Peut-être aujourd'hui, c'est un peu moins important que les pâtes et la pizza, mais surtout dans le nord de l'Italie, jusqu'à dans les années 50, c'était vraiment ce qui était la pizza pour les Italiens du sud. Et d'ailleurs, les Italiens du nord ont le surnom de polentoni, donc de mangeurs de polenta, tellement on en a mangé. Donc on l'a mangé matin, midi et soir. On dit dans un, dit-on piémontais, dans un proverbe, qu'elle sert de soupe, elle sert de pain, elle remplit le ventre, elle réchauffe les mains. On a mangé environ, jusqu'à l'époque de la guerre, environ 4 ou 5 kilos par jour et par famille. Mm-hmm. C'était vraiment le plat des paysans.
Et le plat nourrissant.
Très nourrissant.
La polenta sur la carte d'un restaurant, Alessandra, est-ce que c'est un primo piatto ou est-ce que c'est un contorno, c'est-à-dire un accompagnement?
Alors, c'est surtout un primo piatto, à l'instar du risotto, des pâtes, des lasagnes, de gnocchi. Mais très, très souvent, c'est vraiment un plat unique, comme pourrait être, disons, un couscous. Donc, c'est la polenta qui est toujours servie avec des mets bien cuisinés, des mets en sauce, qui peuvent être aussi bien de la viande, des légumes, beaucoup de fromage. Et donc, il peut constituer, bien sûr, un plat unique.
Alors, on va voir que l'Italie n'a pas le monopole de la polenta, n'a pas le monopolenta, si je peux me permettre.
Wow.
Et c'est pour répondre aux auditeurs et aux auditrices un peu ronchons qui disent « Encore une émission sur l'Italie ». Mais non, c'est une émission sur la polenta. Alors, évidemment, l'Italie est au centre du jeu, mais elle n'est pas qu'italienne, sinon on n'aurait pas invité notre chef Julien Duboué. Je vous propose un petit jeu tous les deux, Julien et Alessandra. Je vous fais entendre l'extrait d'une émission radiophonique qui date, attention, de 1968. Cette émission s'appelait « Si mon village m'était compté ». À vous de deviner, et vous pouvez jouer aussi, hein, Antoine évidemment et Jean, à vous de deviner dans quelle région de France se situe ce village que nous fait découvrir la journaliste Ginette Taffin.
Monsieur, c'est vous qui êtes responsable de la polenta, n'est-ce pas?
Oui, madame. Bon. Oui, c'est nous, tous les deux, moi et monsieur Coletta.
Oui, alors il y a là trois beaux chaudrons. Alors, comment est-ce que vous procédez?
Ben, nous mettons l'eau bouillir avec le sel. Et quand l'eau bout, nous versons la farine et nous tournons sans cesse jusqu'à la cuisson.
Trois quarts d'heure, presque.
Trois quarts d'heure. Oui, et ensuite?
Et après, nous prenons le chaudron à deux, nous le vidons sur une table. On tourne le chaudron, on fait sortir la polenta et avec une ficelle, nous coupons en tranches.
On a dit de la farine, mais il faut préciser
de la farine de maïs.
Ah, de la farine de maïs, oui. Et ensuite, alors on la sert de différentes façons, je crois.
Nous la servons avec une sauce du fromage et une sauce tomate, mais on peut aussi bien la servir avec un civet. Ou alors, comme les bûcherons en forêt, ils prennent un morceau de polenta dans la main et un bout de fromage et ils mangent un peu de chaque.
Ah bon.
Et le plus bon, c'est sur la braise. En apportant cette polenta sur la braise, un peu de fromage fort, ça fond. Alors oui, les bûcherons, ils font ça.
Les bûcherons font ça.
Et moi aussi, j'aime beaucoup ça encore.
Vous aimez beaucoup ouais. C'est votre plat national.
Ah oui.
Où est-on en France, Julien Duboué?
Moi, j'ai presque l'impression d'entendre mon grand-père et un copain à lui. Donc
mais c'est
je
drôle.
Dirais sud-ouest.
Ma réalisatrice, Laurent Thomas m'a dit la même chose. On a presque l'impression. Mais alors, on n'est pas du tout dans le sud-ouest.
Ah bon?
Non.
Bah, on n'est pas très loin de l'Italie. Et
ouais.
Surtout, c'est parce
qu'on... Ah, Savoie.
Ah, on chauffe, on chauffe.
Oui, j'aurais dit la Bresse.
On aurait pu être en Savoie, on est à Saint-Sauveur-sur-Tinée, petit village des Alpes-Maritimes. On est dans le sud des Alpes.
Sud. Ah bon,
on est juste à côté de la frontière italienne, à une grosseur au nord de Nice. Preuve que la polenta, évidemment, fait tache d'huile, hein,
bien sûr.
Du côté de la Savoie. Et d'ailleurs, il y avait un indice, c'est, on dit la,
polenta.
La polenta. La polenta.
La polenta, oui. Tout
évidemment,
à fait.
La polenta.
Elle a perdu le A.
Oui. Mais le maïs est évidemment très présent dans la région natale et le département natal de notre cher Julien Dubouet, les Landes. Dans les casseroles, dans les champs de la famille Dubouet, il y en avait partout. Hein.
Ouais, il y en avait partout, comme dans toutes les Landes. Hein. Il y a des pins et du maïs. Quoi.
D'ailleurs, vous avez droit à un petit sobriquet, vous les Landais, par rapport à vos amis basques.
Là, ça va leur faire plaisir. Hein. Ouais, on nous appelait les croque-maïs. Donc, tellement il y avait de maïs partout dans les Landes. Quand j'arrivais au lycée hôtelier à Biarritz, c'était le surnom de tous les Landais.
On le maïs, on peut dire qu'il est arrivé en fait avec les conquistadors espagnols et qu'il a passé la frontière, les Pyrénées.
Et pour se retrouver comme le piment d'ailleurs. Qui était beaucoup en Amérique du Sud, donc qui a ramené le maïs et qui a été très cultivé pour le manger, mais aussi pour nourrir les canards, le gavage des canards, etc., etc. Mais on en avait. Donc il y avait le maïs pour les animaux et le maïs donc, que l'on mangeait. Nous en famille, que ce soit chez mes grands-parents, ils gardaient chaque année une population de maïs qu'ils replantaient et on se retrouvait à le concasser dans un vieux moulin manuel, donc on n'appelait pas ça la polenta, c'était le maïs concassé qu'on donnait aux poussins qui ne pouvaient pas manger des graines entières. Et les après-midi, ma grand-mère nous cuisait cette bouillie avec du lait, du sucre, un zeste d'orange, un peu de vanille et une belle rasade d'armagnac là-dedans.
Alors là, la polenta sucrée, on va la goûter évidemment en fin d'émission pour le dessert. Incroyable, polenta sucrée, fleur d'oranger, armagnac, ça c'est le combo gagnant des Landes notamment et du Sud-Ouest. Hein.
C'est vrai, mais c'est effectivement une première cuillère de polenta, c'était sucré. Et après, le reste, on l'appelle l'escautoun dans les Landes, enfin en Gascogne. Donc je sais même pas d'ailleurs d'où ça sort ce nom, mais c'est très gascon. Et là c'était effectivement cuit dans du lait encore, on ne l'accusait pas à l'eau. Donc avec un bout de fromage qui traînait sur la table, un peu de piment, et je vous en ai amené à déguster.
Et ben, on va justement faire un match des polenta. Julien Dubouet, vous avez embrassé une superbe carrière qui vous a emmené à New York, à Paris. Et le maïs vous a toujours accompagné en fait, y compris même chez Boulhomme aujourd'hui, où vous me disiez que la polenta c'était désormais un des accompagnements officiels de vos plats mijotés, de l'agneau, etc.
Vraiment, au restaurant c'est la garniture qui marche le plus, donc on en a tout le temps, depuis 6 ans, matin, midi et soir. Sur le buffet, on en fait même en entrée avec un boulgour que Yon nous fait, la même variété de maïs que l'on cuisine comme un boulgour et on l'utilise un peu partout, quoi. Surtout en pâtisserie, donc on fait des baguettes à base de maïs, donc on fait fermenter la polenta pendant 48 heures, ce qui devient un peu un levain rapide, et on panifie derrière donc des boules maïs et des baguettes maïs. On l'utilise sur nos cookies, on fait un vrai flan. Donc le flan, on utilise une maïzena.
On va le goûter, vous nous l'avez apporté.
Ouais, exactement, on utilise une maïzena ou une poudre à flan qui est souvent remplie de colorants, de trucs un peu bizarres. Et bien on est reparti à la vraie base, on n'a qu'une pâtissière avec la farine de maïs et on a la polenta qui est posée sur la pâte feuilletée autour, qui est très croustillante, c'est plutôt sympa.
Et un hommage à votre producteur dont vous avez prononcé le prénom, parce que c'est un sacré gaillard, il s'appelle Yon Arlouchet.
Exactement.
Et il est producteur de maïs dans le Sud-Ouest, c'est votre fournisseur officiel.
Ah oui, c'est devenu un ami, c'est vrai qu'on a un peu plus collaboré lorsqu'on a fait le livre, avec lui essentiellement. Moi, je trouve fabuleux ce qu'il a fait pour le maïs, pour la région, donc à récupérer des vieilles variétés. Donc, il y a 13 variétés différentes dans son champ. C'est fabuleux à voir. Il y a des maïs violets, des blancs, des rouges, des oranges. Tout ça pollinise. Il fait une agriculture évidemment très raisonnée avec des vaches sur ses champs tous les 2 ans. Enfin, c'est extraordinaire. Le travail qu'il produit est fabuleux.
Ben, bravo, hein, Yann Arlouchet. Que vous pouvez suivre d'ailleurs sur Instagram. Alors, petit match, on le disait, des polenta. Nous avons une assiette sous nos micros avec 2 variétés de polenta. On va dire que c'est un match France-Italie. La polenta italienne d'Alessandra au pied de la lettre et la polenta gourmande, landisée, sud-ouestisée à la Julien Dubouet, où on distingue d'ailleurs des grains. Ça, c'est le propre de cette...
La fameuse population, effectivement. Donc, on voit toutes les aspérités de la couche extérieure du grain de maïs. Donc, des taches violettes, blanches, rouges, jaunes. C'est, moi, je trouve ça fabuleux, mais à voir. Hein, j'en ai ramené d'ailleurs, on pourra la toucher tout à l'heure. Et après, j'ai un peu triché, effectivement. C'est pas la vraie recette de ma grand-mère. Maintenant, on l'a basquisée, on va dire, en jetant un peu de brebis dedans, comme elle coupait par-dessus, de fromage de brebis. Il y a du piment d'Espelette et on a un petit peu de bouillon de légumes lorsqu'on la cuisine avec du lait.
C'est ça, donc elle est rendue gourmande avec un peu l'accent basque, évidemment. Alors, une polenta, le principe d'une polenta, c'est qu'on prend, Alessandra Pierini, une semoule de maïs. Il faut bien entendu un liquide de cuisson. C'était dans sa version pauvre, c'était le plus souvent de l'eau. Et puis après, il faut un liant, il faut un peu de fromage, il faut quelque chose qui apporte de la crémosité.
Tout à fait. Vraiment, les puristes en Italie la cuisent dans l'eau, qu'il faut absolument qu'elle soit salée. Mm-hmm. Normalement, pour une polenta traditionnelle, on met un volume de semoule de maïs pour 4 volumes d'eau. Mm-hmm. Si on veut une polenta un peu plus crémeuse, on rajoute un volume d'eau, donc 1 pour 5. Et si on la veut bien sûr un peu plus ferme, on enlève un petit peu d'eau. Ensuite, on peut éventuellement remplacer l'eau avec du bouillon de légumes, de poisson éventuellement, ou de viande, selon avec quoi on l'accompagne.
Bon bouillon de poule.
Du lait, et éventuellement un petit peu de crème, mettre moitié-moitié. Et en fin de
une
cuisson...
Une Italienne qui dit qu'il faut mettre de la panne, hein, dans le, on aura
la,
tout eu.
La crème, oui, ou alors des fromages vraiment très onctueux. Hein. Il faut vraiment...
Du mascarpone.
Du mascarpone en fin de cuisson, c'est très bien aussi.
Antoine ?
La crème, au nord de l'Italie, il n'y a pas d'huile d'olive. Hein, si on parlait du Val d'Aoste, si on parle du Piémont, tout ça...
Les vaches, de montagne, les vaches en plus, sont... Tout à fait.
Mais absolument.
Peut-être que ce qui pourrait faire le pont entre ces deux polenta, moi j'aime bien couper la part en deux, ce serait le fromage, et se dire qu'à partir du moment où on fait une polenta, on peut mettre à la fin, en fin de cuisson, à peu près tous les fromages qu'on veut, ça fonctionnera tout le temps.
Y compris des polenta avec des bleus, un peu crémeux, comme
tout
du gorgonzola,
ce serait magnifique. C'est très bien, d'ailleurs, c'est un des fromages du nord de l'Italie pour la polenta.
Et racontez-nous le process de cuisson, du coup, Alessandra, il y a évidemment un travail de remuage.
Un travail de remuage, on fait donc bouillir l'eau, on verse en pluie la semoule de maïs, en même temps, on mélange avec une cuillère en bois, bien sûr, et on continue à mélanger pour une polenta traditionnelle au moins 40 minutes. Maintenant, j'ai reçu hier un SMS de ma maman qui me dit « Rappelle-toi que 5 minutes après avoir mis la semoule dans l'eau, il faut que tu baisses complètement le feu, tu couvres la casserole et tu n'auras qu'à remuer la polenta maximum 2 fois en 40 minutes.
Ah.
Donc apparemment, elle a expérimenté, donc ça devrait marcher.
Alors là, vous parlez d'une semoule crue, qui par conséquent demande un gros temps de cuisson quand même, et qui demande aussi, malgré les conseils de votre maman, une certaine surveillance.
Il faut la surveiller, bien sûr.
Après, il y a la solution de facilité.
Bien sûr, la semoule pré-cuite, c'est celle qu'on trouve le plus souvent maintenant dans le commerce, et surtout en France. J'ai vérifié, on en trouve très facilement dans les grandes surfaces, même les grandes surfaces bio, et ce sont des polentes très rapides qu'on cuit entre 1 minute et maximum 5-6 minutes. Il faut vraiment, le producteur va marquer le temps de cuisson sur le paquet, et il y aura aussi généralement les proportions d'eau, mais on suit généralement toujours un volume de polenta, même pré-cuite, pour 4 volumes d'eau. Et là, il faut par contre la surveiller parce que ça va être très rapide, et on la sert tout de suite. Et en fin de cuisson, on s'amuse à mettre dans la polenta tout ce qu'on a envie, en fait.
Elle est délicieuse, votre polenta, dans sa rusticité, son évidence. La polenta, vraiment, l'alpha et l'oméga de la polenta, c'est la version d'Alessandra, et puis la version cuisinée, talentueuse, qui chauffe un peu sous le palais aussi, il faut bien le dire. Julien, qui a la bouche pleine. Comment vous vous y prenez pour la vôtre?
Nous, on porte l'ébullition du lait avec un tout petit peu de crème. Mm-hmm. Évidemment, on met la polenta dedans, que l'on va cuire pendant une vingtaine de minutes. Mais c'est vrai que ce n'est pas très long à cuire sur la variété de Yon. Et à la fin, on l'enrichit avec quelques copeaux de...
du beurre.
Non, on ne met pas de beurre dans celle-là.
Que de la crème.
On rajoute beaucoup de... Le lait et le crème dès le début, je ne rajoute pas de beurre. Mais il y a beaucoup de fromage de brebis, du piment d'Espelette et un petit peu de bouillon de légumes avec le lait au départ.
Mais elle est d'une gourmandise, elle est délicieuse. C'est celle-ci qu'on peut manger chez Boulam ?
Oui, elle est tout le temps sur la carte. Mais après, je pense que c'est parce qu'il y a un produit qui est fabuleux à la base. Hein. Enfin, nous, on s'amuse à cuisiner derrière, mais si on n'a pas ce produit riche en maïs de 12 variétés différentes, j'arriverai pas à le faire. D'ailleurs, je pense qu'il faut bien spécifier à nos auditeurs que lorsqu'on achète de la polenta en supermarché, bien regarder qui est écrit maïs derrière. Parce qu'évidemment, il y a des gros malins qui nous vendent de la polenta ou c'est de la semoule de blé à l'intérieur.
Le terme n'est pas protégé.
Exactement.
Ah, absolument. Oui. Ça, on va en parler dans l'histoire de la polenta. Évidemment, quand on entend polenta, c'est maïs aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été le cas loin de là. On fait des polenta avec des farines tout à fait différentes. Je pense spontanément à ma part corse, qui m'appelle vers... Enfin, qui me donne vraiment envie de déguster une polenta. une poulenda. Et la poulenda, c'est vraiment la bouillie de farine de châtaigne,
que l'on mange en général. Cuite au bâton également, comme en Italie.
Ouais, parce qu'il a ses affinités aussi en Corse, oui. Julien Dubois.
Oh, j'ai fini en haut d'une cuisine accrochée un jour, je l'ai fait avec quelqu'un, et à la fin, j'ai mis de la crème dedans, donc j'ai fini accroché au plafond.
Et maintenant, il est interdit de séjour en Corse. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? On la mange en général, cette poulenda, avec notamment le figatelle, cette saucisse de foie de porc, et c'est vraiment une préparation tout à fait délicieuse.
On va déguster sur France Inter.
Cher Antoine Gerbel, un vent de fraîcheur montagnarde souffle dans nos verres pour accompagner ces deux polentas françaises et landaises.
Et oui, et avant
l'ando-basque.
Oui, et avant de vous dévoiler mes choix, je voudrais vous faire une confession proustienne. J'ai été élevé par un grand-père polentoni. Vous savez, vous venez de le dire, c'est ces gens du Nord qui avaient de la polenta à tous les repas. Donc, il y a l'odeur, je me souviens très bien de cette odeur de farine de maïs plongée dans l'eau chaude. Il y a le bruit répétitif du bâton, vous en avez parlé. Long, très long. Et c'est tellement long que on a soif pendant qu'on prépare la polenta. Et donc, j'ai souvenir du grand-père aussi qui débouchait souvent un vin blanc, souvent de sa production, puisque un Italien, vous le posez n'importe où, quand il est immigré dans le monde, il plante une vigne, et il avait une magnifique pergola, on en reparlera, de Chasselas, et il faisait son blanc, et bien évidemment, la polenta était là, et souvent, il accompagnait...
Tout ça en région parisienne, je crois.
Tout ça en région parisienne, tout ça, on était en Seine-et-Marne, à côté de Coulommiers, vous imaginez. Et puis, il y a autre chose aussi, c'est la texture. Le fromage, alors pour les Val-d'Oltin, c'est la fontine, et on mettait la fontine dessus, on grillait, je me souviens encore de cette odeur-là qui m'a marqué vraiment toute mon enfance. Mais le vin, il était là, on l'entendait le déboucher, et puis j'ai vu donc des styles de vin, alors bien évidemment, je vais vous parler de vin avec un peu plus de mon expérience que simplement mon passé d'enfant, de petit enfant de Val-d'Oltin. Mais c'était toujours des vins assez délicats, assez fins. Et c'est vrai que quand on est dans le Val d'Aoste, puisqu'on va parler de cette région, le Val d'Aoste, c'est un croisement de cultures. C'est à la fois la France, à la fois la Suisse, et bien évidemment l'Italie. C'est la Savoie, surtout, parce que c'est italien depuis très peu de temps historiquement, Avanti Savoia. Et c'est dans cette région, eh bien, on continue à faire de tout. Mais vraiment de tout. On plante du maïs, on plante du blé, on fait de l'élevage, on fait du vin, mais en toute petite quantité et vraiment d'abord pour son propre plaisir. Je dirais presque que les Val d'Autun, on les dérange un peu quand on va les voir. Alors ils adorent faire la fête, il y a des célèbres Saint-Ours, il y a des grandes manifestations assez touristiques, c'est une très belle vallée, mais quand même ils sont assez fermés. Il y a à peu près, de souvenir, 7 vallées autour du Val d'Aoste et chacun y va un peu de sa production. Et alors, pour trouver des vins, bien évidemment, si vous poussez à la porte de votre supermarché, vous n'allez pas trouver grand-chose. J'ai trouvé un importateur français, il s'appelle Jean-Emmanuel Simon, il est assez connu, les grands restaurateurs le connaissent bien, où il va chercher toujours des petits producteurs et qui racontent des très belles histoires. Alors, dans votre verre, le vin blanc que vous avez dans votre verre, il est... Alors, c'est une petite appellation qui s'appelle Blanc de Morgex de la Salle. Blanc, alors, le nom allongé, vous savez qu'on parle
C'est pas à particules.
On parle, malheureusement, les jeunes parlent de moins en moins français, c'est normal, c'est l'Italie qui existe, mais traditionnellement, tout est en français, tous les noms, enfin, c'est une insulte en savoyard, pourrait-on dire. Et donc, ce Blanc de Morgex de la Salle, ça, vous avez, à chaque mot, vous avez l'impression que vous montez un étage, parce qu'on est très haut, hein, on est à 1200 mètres d'altitude.
Ah, quand même, 20 d'altitude.
Ce sont les vignes les plus hautes d'Europe. Et dans ce petit paysage, eh bien, la vigne, elle est palissée, elle est haute, elle est sur ces fameuses treilles qu'on appelle les pergolas. Et on va chercher des vins blancs très, très délicats. Et le Prié blanc, le cépage qui est dans ce verre, a cette particularité, c'est comme il pousse en altitude, le fameux petit phylloxera n'est jamais monté. Il n'a jamais pris le remonte-pente, le petit phylloxera. Il est resté dans la plaine. Et donc, toutes ces vignes sont franches de pied. Donc, c'est
pré-phylloxérique.
Et pré-phylloxérique, ou en tout cas, quand elles sont replantées aujourd'hui, on n'a pas besoin de les mettre sur un porte-greffe. Et ça donne quelque chose. J'aimerais bien vous entendre sur ce blanc, parce que...
Je trouve ça fabuleux, rien qu'au nez déjà, c'est hyper intéressant.
Très floral.
Très floral, exactement.
Il y a de l'aromatique.
Il y a de l'aromatique. Moi, je trouve ça, c'est à la fois frais et puissant. Je sais que c'est une texture frontale, sans être primaire. Vous savez, comme vous êtes devant une paroi à la montagne, voilà, vous dites, il faut dompter. Et je trouve que dans l'exercice qu'on a, quand on goûte ces blancs, c'est vraiment ça.
Vous connaissiez, Alessandra?
Oui, je connaissais.
Les vins du Val d'Aoste, vous les avez même beaucoup commercialisés chez Rapp.
Absolument, oui, oui. Et très... puis avec la polenta, ça va très, très, très bien. Surtout la polenta que nous avons là, très, la plus simple dans son appareil, hein, juste avec un peu de fromage.
Voilà, et puis pour les amateurs de rouge, je vous ai servi un verre de rouge. Alors là, une très, très jolie appellation, toute petite aussi. On prend la voiture, on s'en va vers Turin, parce que là, on est vraiment à la frontière de la vallée d'Aoste et de la province de Turin. On est sur le village de Carema. Alors ça, je dis, voilà, à la fin de l'émission, allez sur vos internets, tapez Carema, regardez des images sur le site de l'émission, on a mis des photos de cette vigne incroyable. C'est à la fois romain, parce que c'est soutenu par des piliers en pierre, c'est des immenses pergolas, et là, on a à son altitude limite froide le fameux Nebbiolo. Le fameux Nebbiolo,
oui,
du Piémont. Donc c'est exactement comme, par une comparaison française, le Pinot Noir à sa limite nord, on va dire dans l'Yonne, ou même en Champagne. Et donc ça vous amène des arômes très subtils, très très délicats, mais assez poivrés quand même. Hein. On est
quand
même
sur...
Il y a de l'épice, ouais. Voilà. Mais vous avez cette robe, elle est très transparente. Enfin, le domaine s'appelle Mouraillé, la cuvée s'appelle Lassou. C'est une famille, c'est une reprise, on va dire, parce que il n'y a que des tout petits bouts de vie que vous achetez un pied par-ci, un pied par-là, dans cette montagne. C'est un 2020, et donc c'est produit par la famille Federico et Deborah Santini. Et j'ai oublié de citer le premier producteur, c'est Marciano Vevey, qui travaille avec sa fille Deborah. Vous avez toutes les informations sur le site, et aussi d'autres adresses du Val d'Aoste et de ce secteur.
Très beau voyage dans le Val d'Aoste. Un grand merci Antoine Gerbel. Jean, une réaction ?
Oui, j'ai des réactions des auditeurs sur le match France-Italie et qui nous emmène un peu plus loin parce que...
Oulala, attention !
J'ai Christine qui nous parle du gofio, des canaris, qui serait un plat local très intéressant, et Victoria qui nous parle de souvenirs d'Argentine où la polenta se mange avec des saucisses et de la sauce tomate. Et alors j'ai deux énigmes pour vous. J'ai Béatrice Blaisy-Andrieux qui nous demande si vous allez nous parler du maïs grand roux basque. Ça, c'est pour vous, Julien Dubouet. Et Alessandra, j'ai quelqu'un qui nous demande, c'est Catherine qui nous demande si vous savez ce que c'est que le caveau. Alors, c'est une recette où sa grand-mère faisait cuire la polenta avec des œufs battus en omelette et dans laquelle elle faisait également une sauce à base de crème crue.
Alessandra ?
Ah, d'accord. C'est peut-être une sauce aussi du nord, enfin, une recette aussi du nord de l'Italie. Mais ça s'appelle le Talking Braide. Et je pense que c'est plutôt une recette du Frioul, où généralement c'est l'œuf battu et on met la crème, une crème de fromage par-dessus.
Voilà. Julien Dubois, évidemment, quand on parle du grand roux basque, c'est l'affaire de John...
Exactement, je suis entièrement fautif, je ne l'ai pas prononcé. C'est le grand roux basque dont on parle depuis tout à l'heure. Donc,
et c'est avec du grand roux basque qu'est fait votre délicieuse polenta au fromage de brebis.
Exactement. Voilà. Donc c'est cette population qui peut être cultivée en toute l'Aquitaine aujourd'hui et qui vient de maïs cultivé au Pays Basque en France, mais aussi en Espagne, que Yon a sourcé à droite et à gauche pour créer ce grand roux basque.
Et c'est Arto Goria en basque. Et c'est d'ailleurs, je salue Christian Aguerre et toute la filière au Pays Basque qui remettent au goût du jour cette fabuleuse variété de maïs tout à fait multicolore avec une rusticité, une intensité en bouche tout à fait étonnante. Situations occur when romance is a blur. It happens all the time. Send me a savior. So spare me the words that I've already heard over a thousand times. Did I fall out of favor? La polenta, c'est le menu du jour que nous partageons avec nos invités, l'autrice et cuisinière Alessandra Pierini, qui vient de signer ce merveilleux petit bouquin couleur maïs dégradé. 10 façons de la préparer aux éditions de l'Épure. Et Julien Dubouet, évidemment, notre chef, l'un de nos préférés, qui en est pas à sa première d'ailleurs au micro dont on va déguster, et qui est au fourneau avec sa grande équipe de boulhommes, qui a peut-être d'autres projets, mais il a pas envie d'en parler pour l'instant. Enfin voilà. Bon. Non, je ne vous cuisine pas.
Oui, je vois.
Plein de réactions de nos auditeurs et de nos auditrices, et notamment ceux qui nous disent qu'ils ont dégusté un gratin de polenta que j'avais fait dans mes vidéos de France Inter. La recette est signée Laurent Thomas, notre réalisatrice. Je l'ai goûté cet été. Gratin de polenta, mais à pleurer de bonheur, tellement c'est bon. Et très simple à faire. Incroyable qu'elle a sorti comme ça sur ses petits carnets familiaux. Tout ça a été écrit et manuscrit et c'était vraiment délicieux. On nous parle également de la Mama Liga, la polenta de Moldavie et de Roumanie. On nous parle de Kachamak, polenta de Bulgarie. On nous parle beaucoup aussi de la polenda de Corse, mais ça évidemment on l'a déjà évoqué. Il y a d'autres choses à base de maïs dont on vous parle, Jean?
Oui, on nous parle des Taloas, des Landes, et vous parliez de la Bulgarie. J'ai un auditeur tout à l'heure qui parlait de la Roumanie, où la polenta apparemment était extrêmement populaire.
Polenta de maïs un peu partout, évidemment. Des bouillies de maïs, il y en a beaucoup dans les terres natales du maïs, que sont évidemment les pays d'Amérique centrale et Amérique latine.
Bien sûr. En Afrique aussi, énormément. En Afrique, on cuisine beaucoup le maïs blanc, d'ailleurs, comme dans les Vénéties.
Talois.
Et le talois, ça nous vient aussi d'Amérique du Sud. C'est la tortilla que l'on mange en Amérique du Sud et qui a été ramenée donc dans le Sud-Ouest, plus au Pays Basque. Donc, c'est des graines de maïs qui sont nixtamalisées, donc pendant 24 heures.
Le traitement à la chaux.
Exactement. Après, broyé. Il y a uniquement dedans le maïs nixtamalisé que l'on passe à la poêle sur une plancha, sur un bout de fer devant un feu. Donc moi, j'ai eu de la chance de le manger au Mexique où je me suis régalé, mais souvent au Pays Basque à 3-4 heures du matin, quand on rentre un petit peu des férias, on a souvent un taloa avec un bout de ventrèche dedans, quoi.
Et vous avez fait découvrir il y a quelques années, Julien, aux Parisiens,
c'est vrai,
cette galette de maïs d'origine du Sud-Ouest.
Exactement, on a ouvert deux petits lieux, même trois d'ailleurs, où on servait le taloa sous forme de sandwich.
On nous demande, Alessandra Pierini, d'où vient le mot polenta?
Oui.
Un petit peu un retour en arrière pour une petite histoire de la polenta qui ne remonte pas à hier en Italie.
C'est un mot qui remonte à l'Antiquité. D'ailleurs, le terme polenta vient du latin pulse, donc, qui signifie bouillie, purée. Et donc, c'était vraiment un mets qui était au menu des Romains. Et à l'époque, bien sûr, ce n'était pas du maïs qui était encore exclusivement utilisé dans l'Amérique du Sud, mais c'était plutôt des bouillies de sarrasin, d'épeautre, d'orge et de millet. Ensuite, le terme polenta, on le retrouve plutôt au Moyen-Âge en Italie, mais là encore, surtout, on l'utilisait avec des polentas de châtaigne, de sarrasin ou de mélange de céréales différents, et jusqu'à au 16e siècle, quand ensuite la polenta elle a été implantée d'abord par les Vénitiens, surtout pour nourrir les paysans pauvres de l'arrière-pays, surtout de la région que maintenant correspond au Frioul Vénétie julienne, où on mangeait vraiment de la polenta, on s'en nourrissait tous les jours. Et puis la polenta, elle a commencé autour du 18e siècle à descendre, donc d'abord dans toute la plaine du Pô, tout le nord de l'Italie, et c'est là le plus grand producteur, descendu dans le centre, dans le sud, et après dans le reste de l'Europe. Donc on la cuisine du Portugal jusqu'au Caucase, jusqu'à en Géorgie aussi.
Après le match des polenta, là on était plutôt sur le versant traditionnel. Désormais, deux recettes France-Italie à base de polenta, mais alors deux recettes totalement créatives. Vous avez chacun 30 secondes pour nous présenter votre recette. Alessandra Pierini.
Alors moi j'ai fait pour dire que la polenta on l'utilise vraiment dans plein de recettes. J'ai fait une polenta tout à fait classique, cuite à l'eau, que j'ai laissé donc refroidir, et j'en ai fait une sorte de galette ronde de 30 cm de diamètre. Je l'ai laissé un petit peu refroidir. J'ai mis une sauce tomate que j'ai cuisinée donc légèrement avec de l'huile d'olive, un petit peu d'ail et de l'origan. Ensuite, j'ai mis de la scamorza dessus.
Attendez, vous êtes en train de décrire une pizza en fait.
Une pizza, des champignons, de la mozzarella, et c'est une pizza de polenta.
Mais quel régal!
C'est magnifique, n'est-ce pas?
Non, mais attendez, c'est vraiment quelque chose. Hein. C'est-à-dire que la pâte de la pizza à base de farine fermentée,
de farine de blé,
a été remplacée par une galette de polenta, mais qui reste bien moelleuse, et garnie comme une pizza. Ça, c'est une des recettes. La pizza de polenta qui figure dans votre petit livre.
Absolument,
la polenta, 10 façons de la préparer. Et c'est bluffant.
C'est du gâteau.
Bravo.
C'est super, n'est-ce
pas? J'aurais aimé avoir l'idée, mais je ne suis pas italien, donc comment je vais. Mais c'est tellement bon.
Piquez-lui l'idée, on ne va pas le gêner.
C'est une création.
C'est une création.
Et connaissance.
Bravo.
On peut imaginer de mettre plein de choses par-dessus. Hein,
et la recette sur franceinter.fr à la page On va déguster. Deuxième recette tout aussi créative. Alors là, je peux vous dire qu'elle envoie aussi en termes d'arômes.
Ben moi, je félicite encore le travail de Yon qui, lorsque fait sa polenta, récupère des morceaux un peu plus gros. Et il le commercialise, ça s'appelle le bia chez lui. Et j'en ai fait tout simplement, ça m'a fait penser en fait au grain de boulgour, mais c'est du maïs à 100%.
C'est un boulgour de maïs, c'est du maïs concassé en fait.
Il y a un côté phénicien quand même, libanais, c'est drôle.
Mais voilà, j'en ai fait tout simplement un boulgour derrière. Donc voilà, très assaisonné, jus de citron, citron vert. Je cuis la polenta comme un pilaf cette fois-ci. Un peu d'échalote, d'ail, huile d'olive. On la mouille et je cuis 17 minutes au four. Et derrière, j'en fais ce boulgour avec toutes les herbes, les tomates confites et citron.
C'est chez Boulogne ça aussi?
Oui, tout le temps.
Et là, c'est vraiment le taboulé landais en quelque sorte, mais avec ce petit accent aussi citron confit.
Absolument.
Qui apporte une note orientale. Ça, c'est une super idée. Hein. Le taboulé de maïs, là encore, comme Julien Dubout est généreux, la recette est à retrouver sur franceinter.fr à la page On va déguster.
France Inter. On va déguster.
Jean-Mathieu Christolle, vous vivez de drôles d'aventures avec le maïs.
Absolument. Avant de vous parler du maïs sous une forme ou une autre, j'aimerais évoquer Gustave Courbet et je vais vous expliquer pourquoi. Bref rappel, Courbet est un peintre du beau milieu du 19e siècle dont la fortune critique tient autant à ses phrases que de son vivant qu'au choix de ses sujets, parmi lesquels un enterrement à Ornans, qu'un critique de l'époque avait qualifié, je cite, d'un amour du lait endimanché. Cette ville du Doubs est également mise en valeur dans un autre tableau, la source à Ornans.
Bah, je vous rappelle quand même qu'on est dans l'émission On va déguster, on n'est pas dans On va à Orsay. Expliquez-nous le rapport entre Courbet et notre sujet du jour.
J'y viens, j'y viens. Tout part d'une anecdote personnelle. Je serai bref, à l'occasion d'un dîner qui célébrait à la fois l'esprit de Courbet et le symbolisme de son œuvre peint, j'ai eu pour mission de célébrer les réminiscences de son origine franc-comtoise. Il était donc indispensable que l'on trouve, d'une façon ou d'une autre, les Gaudes jurassiennes.
Ah.
Nous y voilà. Le rapport entre Courbet et notre émission, ce sont les Gaudes.
G-A-U-D-E-S, les Gaudes. De quoi s'agit-il?
Alors, les Gaudes, Alexandre Dumas est décrit dans son dictionnaire comme une bouillie de farine de maïs, de sucre et de lait, populaire en Bresse et en Franche-Comté. Par Gaudes, on désigne autant les épis de maïs torréfiés que la farine qu'on fait avec. Pourquoi ce nom? Alors, d'après le regretté Alain Rey, c'est à l'origine le mot galda qui désigne une variété de réséda fournissant une couleur jaune. La teinture a donné son nom à une bouillie de farine de maïs en Franche-Comté, en Bourgogne et en Bresse, puisque le mot y est attesté déjà depuis 1752. Cette couleur franche devient légèrement ambrée, sable, lorsque les grains de maïs ont été torréfiés au préalable. C'est ce qui distingue les Gaudes bressanes d'autres spécialités de Gascogne, des Charentes ou du Languedoc, et que vous connaissez peut-être sous des noms locaux. Que nos auditeurs nous ont rappelé également, des noms qui sonnent comme des malédictions exotiques. Donc j'ai l'escoton, la mioque, Stéphane nous parle de la cruchade à la fleur d'oranger, Marie de Carcassonne et Cécile nous parlent du mia, de la miade.
Et oui, mia, bien sûr. Qui viendrait d'ailleurs de millet. Hein. Yeah. Au départ, c'était la céréale privilégiée pour cette bouillie.
Tout à fait.
Et chacune se caractérise par des saveurs rappelant le fruit sec grillé pour les uns, sésame, noisette, noix, ou le pop-corn pour les autres. À l'opposé de cette tradition séculaire, des industriels ont bien compris l'intérêt des gaudes, dont le marqueur biscuité donne à certains produits la longueur en bouche qui leur manque, et dont la couleur permet de redonner de l'éclat à d'autres produits un peu ternes.
On peut parler d'un exhausteur de goût, quoi. Farine de gaudes dans la biscuiterie industrielle.
Alors rassurez-vous, je ne suis pas venu avec de la bouillie de farine de maïs, ni avec une version recuite qui contiendrait de la moelle de bœuf, des raisins de Corinthe ou du cèdre à confit. Hein, c'est une autre fantaisie qu'on trouve chez Alexandre Dumas. Non, je vous ai fait des sablés à la farine des gaudes. Et voilà la recette en quelques mots que vous retrouverez sur le site de France Inter. Donc c'est un temps pourtant de farine des gaudes et de farine T45 ou n'importe quelle autre. Mélangé à du beurre, du sucre, il y a des jaunes d'œufs, une pincée de sel pour le plaisir. Donc on mélange d'abord les farines entre elles, avec un petit peu avec la levure. Ensuite on crème ensemble le beurre et le sucre. C'est l'occasion de rappeler que le sablé n'est pas une pâte sablée. Ça c'est juste un petit point de détail, si j'ai des élèves qui m'écoutent. On ajoute les jaunes d'œufs, on alterne avec les mélanges mélange de farine jusqu'à obtenir un mélange homogène. Et ça donne ces sablés que vous avez là.
Un certain moelleux.
Avec beaucoup de moelleux, oui.
Et cette gourmandise un peu pop-corn de la farine des Gaudes. La farine de Gaudes.
Et aucune levure.
Si, il y a un petit peu de levure chimique.
C'est un peu levé d'ailleurs, mais c'est délicieux.
C'est aussi ce qui rentre, le côté moelleux.
Et rappelez-nous, c'est quand même la proportion farine de maïs.
Moitié-moitié.
Moitié-moitié.
Oui.
Farine de Gaudes et farine T45 de blé.
Oui, et après, moitié beurre, moitié sucre, des jaunes d'œufs. Alors j'ai fait plusieurs fois la recette, ça marche avec des œufs entiers. Ce sera un peu moins jaune. Voilà, ça fonctionne. Et donc, je vous ferai goûter après, hors antenne. J'ai fait pour rester dans le thème, j'ai fait un caramel de pop-corn.
Un caramel de pop-corn. J'espère que la recette est sur le site de l'émission.
Non. Ah. C'est pour vous.
Carton jaune. Carton jaune comme le maïs. Voilà.
Excellent. Vraiment, merci beaucoup, Jean-Mata Christophe. Vous pensez quoi de ce sablé? C'est bien?
C'est trop bon. C'est même biscuité, moi, je dirais, tellement c'est moelleux et hyper agréable. Et puis, les aspérités de maïs qui restent là au coin des dents. J'adore.
Et au rayon biscuit, on a quand même aussi ces cookies qui ont été littéralement, qui se sont roulés en fait, dans la semoule de maïs qui apporte de la croustillance. Vous aimez ou pas? Ah oui, beaucoup de pépites de chocolat.
Bien gourmand. Deux chocolats, chocolat blanc, chocolat noir, noix de pécan. Et effectivement, à la fin, on passe le palais avant de le cuire dans, toujours pareil, la polenta de maïs de chez Yon, un peu de fleur de sel dessus et on cuit. Et du coup, ça vient torréfier. Et apporter un goût de maïs à ce cookies. Quoi.
Délicieux. On finit, merci. Julien Dubouet, avec un hommage à votre grand-mère. Comment vous l'appeliez, votre grand-mère?
Mamie, hein, comme mamie. Tout le monde.
Hein. Non, mais pour avoir un petit
nom. Non, je croyais qu'il fallait son prénom ou son...
Non, mais mamie.
Ok.
Et c'est une polenta, mais alors au registre des desserts.
Oui, c'est exactement ce dont je parlais au début de l'émission. C'était mon premier amour avec le maïs que l'on avait à la maison et qui était cultivé sur place. Et c'était tout simplement donc du lait, bon moi je rajoute un peu de crème maintenant, bouilli, et on jetait deux poignées, je la voyais jeter deux poignées de maïs qu'on venait de concasser. Et à la fin, il y ajoutait soit un zeste d'orange, un peu de vanille et une petite rasade d'Armagnac.
Oui, j'allais dire, c'est un dessert pour adultes, là, quand même. Hein. La rasade d'Armagnac.
C'est très léger,
mais c'est la saveur régressive un peu du riz au lait.
Oui, c'est vrai.
Oui, c'est ça. Temps,
voilà, puis, avec une consistance moelleuse.
En cuisant, évidemment, le riz. Pardon.
Le maïs.
Je me suis trompé d'émission. lâche un peu son amidon, ça fige légèrement. Du coup, on obtient une crème à la texture tremblotante, comme ça, qui est vraiment, vraiment délicieuse. Et puis, cet arôme. Aromatique, fleur d'oranger, armagnac, la petite morsure de l'alcool, mais très légère. C'est un truc de dingue.
C'était notre goûter et notre petit déjeuner bien souvent.
Et le Gersois, qu'est-ce qu'il met comme armagnac?
Alors là, c'est de la folle blanche, nous, qu'on met dedans, parce qu'on en a plus forcément dans le côté des Landes où je suis que l'armagnac brun.
Il y a des auditeurs qui nous demandent, Alessandra, pour faire sa polenta à la maison italienne, sachant que plus de 80% de la polenta que l'on vend, de la semoule de maïs en France, vient d'Italie. Y a-t-il à privilégier soit une variété, soit une marque?
Il y a énormément de variétés anciennes maintenant. Il y a plus de 40 variétés.
Y compris des maïs d'ailleurs qui sont slow food. Hein.
Qui sont slow food, comme le maïs de maïs sponcio du Trentino Alto Adige, le maïs bianco perla, le blanc de Venezia, maïs marano. Et surtout, il faut privilégier cette farine traditionnelle avec des blés anciens, surtout pour le goût, vraiment, qui va donner vraiment à la préparation. Donc, de préférence, on le voit toujours marqué sur les paquets, oui.
Et évidemment, le nom italien du maïs.
C'est le grano turco. On l'appelait comme ça parce que le blé turc, c'est un peu en opposition au blé tendre autochtone de la région. Et surtout parce que comme c'est les Vénitiens qui l'ont implanté et qui faisaient beaucoup de commerce avec l'Extrême-Orient et dont les ports turcs, tout ce qui venait de l'étranger...
La porte d'entrée, c'était un peu
la Turquie.
Grano turco.
Encore aujourd'hui.
Le grain, le blé turc.
Le blé turc.
Absolument. Un immense merci. Toujours autant de savoir et de saveur chez Alessandra Pierini, autrice de la polenta, 10 façons de la préparer aux éditions de l'Épure, un merveilleux petit bouquin. Il y a cette recette absolument géniale de pizza de polenta. Un grand merci, Julien Dubouet.
Avec grand plaisir.
Vos fans vous retrouvent régulièrement chez Boulogne, vous y êtes tout le temps quand même.
Oui, j'y suis souvent. Si je suis à Paris, je passe tous les jours.
Et vous reviendrez nous parler bientôt d'un nouveau projet?
Avec grand plaisir. C'est en cours.
C'est bien.
Comme c'est bien qu'on vous entendez ça.
La semaine prochaine, nous vous proposons un format un peu spécial. La masterclass de la seule chef 3 étoiles de France, Anne-Sophie Pic, à dimanche prochain. Si vous avez encore faim. Thank you.